Colette.
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 Chasseuse.
Chasseuse.
Cueilleuse.
Rageuse.
Rageuse.
Rêveuse.
Rêveuse.
Allumeuse de sororité. Colette.
Attends, Colette, ce serait pas encore un podcast féministe?
Mais c'est surtout un peu de sens dans notre quotidien.
Et voilà. Bienvenue chez les Colettes. Allumeuse de sororité.
Il y a eu un temps où tu n'as pas été esclave, souviens-toi. Tu t'en vas seule, pleine de rire. Tu te baignes le ventre nu, souviens-toi. Tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps. Tu dis qu'il n'existe pas. Mais souviens-toi, fais un effort pour te souvenir. Ou à défaut, invente. Monique Wittig, Les Guerrières, 1969.
Le moment où j'ai ressenti pour la première fois un élan féministe, c'était à la naissance de ma fille.
Pourquoi ? Pourquoi devait-elle prendre, en Stummelings, son dû à l'ordre des choses ? Pourquoi cet ordre-là n'était pas fait pour elle ?
C'est des petits éléments, je pense que ça commence par la grossesse, déjà en cours de la grossesse, on se dit mais pourquoi en fait je me retrouve...
Elle travaillait dans une petite librairie, elle savait qu'elle pourrait se reposer un peu, tant qu'un client ne viendrait pas pousser la porte.
Je me souviens, je mettais mon manteau par terre, derrière le guichet, et je dormais.
Profitant de l'instant de répit jusqu'à ce que la clochette tinte. Un bref instant bien nécessaire.
Je savais que j'avais plus ou moins 40 secondes avant que le client entre dans la librairie.
Elle n'avait que ses petits interstices temporels pour recharger ses batteries. Elle était enceinte, le ventre rond et plein d'une fille. Elle le savait. Dans quel monde allait-elle naître ?
Je me suis dit, il y a quand même un truc qui tourne par an. C'est quand même fou que je ne puisse pas, profiter d'un congé pour raisons exceptionnelles, etc. Mais d'un congé payé. Il me semblait en tout cas qu'il y avait un décalage. Étant là, couchée par terre, je me dis, il y a quand même un petit souci.
Il n'y a pas de place pour les mères et leurs besoins, les mères et leurs enfants. Elles se situent dans les interstices. Doivent grignoter les espaces et les lieux pour avoir un espace minimal, nécessaire. Cela la révolte, cette injustice liée au genre. Elle ne veut pas que sa fille souffre de ces injustices. Le féminisme est devenu un mot avec du sens.
Ça s'est accentué avec la naissance de la petite et avec un retour au travail à 3 mois du bébé. Je pense qu'on se sent bien en décalage par rapport au reste des personnes, par rapport au manque de sommeil qu'on subit, mais aussi par rapport au désir simplement de vouloir rester avec son bébé et de ne pas pouvoir le faire de manière facile. J'ai une fille qui a 18 ans et j'ai une fille qui a 18 mois. Alors certainement, il y a des choses qui ont changé depuis, mais pas assez, clairement pas assez.
Je suis une fille de feu, sous le calme de mon apparence. Je déclare la guerre aux préjugés. Je ne veux pas d'un monde où règne la séparation. Je crois que j'ai toujours été féministe, en fait, dans le sens où je crois que ma grand-mère et ma mère sont assez féministes. Elles m'ont jamais fait sentir particulièrement différente, on va dire, des garçons.
Scène 1, intérieur jour, Bruxelles 2000, 16 juin, 13h34, école de cinéma. Elle entre dans l'auditoire, ça sent le bois, le parquet grince. En face, 6 professeurs en ligne la regardent. Elle s'assit. Alors bien, donc, vous êtes venue de la France pour faire du cinéma. Oui, elle attend, impatiente de pouvoir leur expliquer sa motivation, ses envies. Enfin, elle est là. Elle attend le début de ses études, tellement d'histoires à raconter, tellement d'univers à créer. Dites-nous donc, un petit monsieur aux grandes lunettes noires se penche en avant, dites-nous donc ce que cela vous fait de vouloir entrer dans une section dominée par les garçons. Comment ?
J'étais hyper choquée qu'on pose cette question. Parce que j'avais même jamais envisagé, je ne m'étais même pas posé cette question. Je veux dire, pour moi, je rejoignais une école de cinéma parce que j'avais envie de faire une école de cinéma.
Elle ouvre grand ses yeux, essaye d'avoir un peu d'air et avoir l'air un peu sérieux pendant qu'elle réfléchit et que les pensées filent derrière sa tête. Elle tombe de sa chaise, en réalité. Vite, une réponse, du tac au tac, mais rien. Rien ne lui vient à l'esprit. L'étonnement devient tout doucement de la colère, et avant que celle-là arrive à sa bouche, elle sort un gentil « Oh, je tente ma chance !» Avec une voix toute mignonne, elle se mord la langue. L'audition est finie, elle part. La section cinéma de l'Insas n'est plus une section cinéma, mais désormais une section réservée au genre masculin.
Parce qu'en fait, je crois que j'ai jamais vraiment senti cette différence de genre, en fait. C'était vraiment pas frappant. Et donc là, ça me confrontait déjà pour la première fois à ça. Et ce qui s'est confirmé d'ailleurs dans la suite de ces études, puisqu'en fait, on m'a fait redoubler cette première année d'image.
Scène 2, intérieur jour. Cuisine, Bruxelles 2001, 16 juin 10h. Marie est assise à une table, elle lit une lettre. Nous sommes dans le regret de vous informer que vous allez devoir doubler l'année. Nous regrettons un manque de maturité, un esprit un peu trop rebelle et une incapacité à travailler en équipe.
Toute chose absolument fausse. Simplement, j'étais une fille. Et donc, je pense que vraiment, on m'a fait redoubler parce que j'étais une fille.
Vous pouvez vous réinscrire pour l'année suivante, mais nous vous invitons à réfléchir si cette section est vraiment pour vous.
Et que, quand on est une fille, on doit être gentille et sourire et faire amen à tout ce que les profs disent. Sauf que ce n'était pas ma personnalité. Et donc, d'ailleurs, je reste très traumatisée de ça, parce que j'ai eu comme un... Ça a fait comme une coupure en moi. Ça a dû me couper de qui j'étais, en fait. Et je mets beaucoup de temps à me réapproprier, de me défaire de cette position dans laquelle on m'a mis, de fille.
Scène 3. Intérieur, jour. Ah oui, Mario. Donc, nous, le corps enseignant, tenons à vous féliciter pour votre esprit rebelle, votre audace juvénile et votre impertinence. Vous amenez un ton de fraîcheur et savez travailler en autonomie et montrer du leadership. Le cinéma a besoin de vous, de personnalités fortes comme vous, car être réalisateur est un métier solitaire. Bravo et bonne continuation. À l'année prochaine.
Je suis en feu, les joues rosies par toutes ces envies de dire, de lâcher, de mâcher toutes ces injustices pour les digérer et ne plus jamais avoir affaire à elles. Je déclare la légèreté comme humeur universelle.
Elle est calme et apaisée ce soir-là, et pourtant n'arrive pas à s'endormir.
C'est cette fameuse nuit où je dormais pas, je faisais une insomnie.
Les journées sont longues, on approche du solstice d'été, toute la nature est vivante et énergétisée par tant de lumière.
C'était très particulier, c'était la nuit, j'étais dans mon lit.
Elle décide d'allumer la radio et tombe sur une émission qui s'intitule « La poudre ».
Avec Juliette Armanet, donc « La poudre », c'est le podcast de Lorraine Bastide.
Son attention et son écoute deviennent de plus en plus alertes, captivées.
Comment je suis tombée là-dessus, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est ce jour-là que ça a commencé.
Ça vient toucher quelque chose de profond en elle.
Ça m'a inspirée, mais ça m'a portée, quoi, d'entendre la voix de ces deux femmes.
Juliette raconte comment elle s'est positionnée en tant que femme dans sa vie et l'importance de la sororité dans ce parcours.
C'était pas tellement des questions sur le féminisme, mais c'était... Elle a dû parler de son enfance. C'était surtout, oui, des souvenirs et comment elle se posait en tant que femme.
Puis, une question posée comme une révélation. Est-ce que tu as une chambre à toi ?
Qui est inspirée clairement du livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi.
Cet espace d'intimité avec soi-même qui se vit justement là, à cet instant.
Et donc c'est intéressant cette question de savoir si tu as ton espace à toi pour pouvoir faire ce que tu veux en fait, te délester de toute cette charge que nous les femmes on peut avoir, qu'elle soit mentale ou autre.
Depuis lors, elle arpente le champ du féminisme comme une quête vitale et essentielle qui la fait grandir un peu plus chaque jour.
Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ce souvenir-là précisément en tête, mais en tout cas, c'est là que j'ai découvert Lorraine Bastide. Clairement, c'est elle qui a fait émerger mon féminisme.
Je suis une femme blanche occidentale et j'ai beaucoup de privilèges sans pour autant me sentir privilégiée. Pourquoi ?
Elle était partie en France rejoindre ses amis. En les attendant, elle profita de la douceur du printemps en flânant dans les rues. Sa quiétude fut perturbée par une voix, par des cris. Elle s'approcha de ce que bientôt elle nommera violence. Elle aperçut un homme et ses bras qui cherchaient mais qui ne frappaient pas. Elle entendit ces insultes qui mettent à terre. Une femme atterrée à côté d'une voiture. Elle s'approcha d'eux, sans réfléchir, ou plutôt son instinct de survie dans les yeux. Elle demanda si cette femme avait besoin d'aide. La femme ne répondit pas.
Et je réalise que dans la voiture, il y a un gosse derrière, quoi. Il y a un jeune enfant. Et je vois que l'homme lui pique son GSM à la femme. Et que du coup, il la bloquait. Elle n'allait pas partir sans son téléphone. C'était une manière de la tenir. Et elle ne pouvait pas non plus appeler une copine à l'aide. Elle était prise un peu au piège. Et il y avait cet enfant qui était encore plus pris au piège de la situation, évidemment.
Son sang ne fit qu'un tour. Elle ouvra la portière et prit l'enfant. La femme suivit à son tour. Elle les emmena, non pas au commissariat, mais dans un parc.
J'ai pas pris peur, je sais pas. J'avais vraiment une rage au fond de moi de « c'est trop injuste ». Je suis intervenue de manière très... j'ai été fort intrusive. J'ai dit « vous sortez de la voiture, vous restez pas ici ».
Sans dire grand-chose, on sentait toute la sororité à travers leurs regards. Elle se disait que peut-être elle avait été intrusive dans la vie de ce couple, mais une force était là, bien présente, à vouloir aider cette femme et son enfant.
Je déclare vouloir être actrice et pas spectatrice de ma vie, et je ne veux pas refaire ma vie, j'en ai déjà une.
Une cuisine, du café, deux femmes, un bel accent italien. L'une parle de naissance, de sa naissance et de la naissance d'un garçon.
Donc pas vraiment la grossesse qui a été longuement une période un peu de déni, de difficulté.
Elle dit « il m'a faite féministe ». Quelle découverte, quel parcours du combattant. Ça lui plaît. Ça lui plaît ce qu'il a déclenché, ce petit homme.
Le fait qu'il était un garçon... finalement, m'a interpellée sur plusieurs choses féministes, finalement. Donc, ça a été un peu une découverte.
Elle dit, j'y pense presque tous les jours.
Oui, un peu bizarre, des fois, penser qu'un garçon, donc mon fils, a déclenché un mouvement féministe.
Il a 4 ans et demi aujourd'hui, le petit homme. Elle dit, il sera un homme différent de ceux que j'ai connus. Elle dit, pour lui, je me dois d'être féministe. Et ça lui plaît. Ça lui plaît ce qu'il a déclenché, ce petit homme. Je suis déjà rentrée dans une banque déguisée en poussin. J'ai appris à dire des insultes et des mots doux en arabe, mais j'ai tout oublié.
C'est le printemps. Les rayons du soleil se reflètent contre les hublots de l'avion. Les yeux s'entrouvent après un sommeil agité, bouillonnant d'envie et parsemé de soucis. Elle met ses lunettes de soleil et descend sur la piste de l'aéroport du Caire.
Moi, j'arrivais là-bas avec plein d'envie, notamment de pouvoir aller explorer plein de quartiers, rencontrer du monde. On était en 2011. C'était vraiment une période très effervescente.
Sa nouvelle aventure vient de commencer. Elle s'appuie au bras de son compagnon égyptien. Elle le regarde. Lui, il fixe dans le vide. À quoi pense-t-il? Au retour au pays? À son chez-soi? La chaleur est écrasante, l'air lourd, la poussière irritante. C'est le printemps. Le Maghreb est secoué par une vague de liberté, un désir de démocratie, d'égalité, pour tous, pour toutes. C'est le printemps arabe.
Et puis, j'ai très vite... commencer à me rendre compte que une femme seule dans la rue au Caire, c'est très inhabituel.
Les bras découverts, une jupe légère, la chevelure léonine caressée par le vent. Elle est seule. Tout à coup, des interpellations, des sons aigus, des sons gutturaux, des crachats. Des hommes surtout, mais pas seulement, des femmes aussi. Il a des visages avec réprobation, mépris, de la haine, les visages crispés. Elle accélère son pas.
C'est comme ça que j'ai appris des mots doux en arabe, parce que c'est ceux que j'entendais. Et aussi des insultes, parce que c'était une manière de me protéger. Mais j'ai aussi reçu des insultes.
Et voilà, des baisers. Des baisers qui claquent au bord de lèvres. Des lèvres d'autres hommes. Des invitations de plus en plus explicites, hardies. Essaye à l'attirer dans des endroits isolés, sombres.
Tous ces échanges étaient quand même très... je découvrais une violence et une agressivité qu'en fait, j'avais jamais vécue en Belgique.
Alors, elle s'y met à fond. Elle commence à apprendre. Connard, salaud, va te faire foutre, casse-toi. Tout en arabe. Ses lèvres, sa langue, sa gorge peuvent aussi insulter, offenser, agresser.
Et ça a l'air très naïf maintenant, mais jusqu'à mes 30 ans, je ne voyais pas vraiment de différence entre les femmes et les hommes. J'avais l'impression d'être libre et que c'était OK comme ça.
Hé, tu es folle ? Hé, pute, t'es à combien ? Elle n'est pas tarée. Elle n'est pas débile. Elle n'est pas une pute. Juste une femme qui a envie de bouger. De bouger dans l'espace public, comme tout homme, comme tout être humain.
Et là, je découvre que, ben voilà, on me juge parce que je circule librement dans la rue, on me juge parce que je suis seule.
Elle se plaint, elle pleure, elle en discute avec son compagnon. Et elle se sent seule.
Je sais que ça m'avait vraiment hallucinée, des rames de métro non mixtes pour protéger les femmes. Parce que voilà, là-bas, toute l'optique, c'est pas d'éduquer les hommes, c'est protéger les femmes. Et au début, je voulais pas entendre parler de ces wagons non mixtes. Et puis au bout de quelques temps, c'était tellement épuisant. Les regards, les réflexions, les attouchements, qu'en fait, bah, j'ai fait comme les autres femmes. Je suis allée dans des wagons purement féminins pour un peu respirer.
Elle est seule, sa valise à la main. Elle arpente les couloirs de l'aéroport du Caire. Elle s'assied à sa place et regarde à travers le houblot. 2 ans se sont écoulés. C'est encore le printemps. Un autre printemps. La quête de liberté, de démocratie, d'égalité ont été écrasées.
Et ce qui m'a frappée aussi, c'est que finalement, à quel point j'étais quand même une femme, mais tellement privilégiée dans cette société-là. Parce que bien sûr, moi, j'avais l'injonction à être assez couverte. Mais quelque part, la société était plus tolérante avec moi si je n'étais pas complètement couverte. Et ça, je l'ai vécu comme un énorme privilège. Et d'ailleurs, mes amies égyptiennes me disaient mais toi, tu peux te balader en rue, en mini-short, alors vas-y, fais-le pour nous. Mais j'avoue que je n'ai jamais eu ce courage et cette audace de me promener en mini-short ou alors avec un legging et des chaussettes en dessous.
Elle pose sa valise, ouvre la porte de chez soi. Elle est chez soi. Elle peut sortir, se balader toute seule. Avec sa jupe légère, sa chevelure léonine au vent, sans devoir insulter, offenser, agresser. Alors elle respire, elle s'écoute et elle milite pour ses sœurs égyptiennes et pour toute autre ses sœurs.
Et c'est là aussi que j'ai découvert le féminisme ou les féminismes arabes et musulmans, des femmes voilées qui aspiraient aussi à avoir plus de liberté, de possibilités de choix.
Retrouvez les créations de Colette sur toute bonne plateforme de podcast et sur castopod.domainepublic.net.